Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditrices, auditeurs de la Radio Rage, voix de jeunes, bonsoir. Bienvenue à l'émission Café des Libertés. Dans cette émission, nous allons aborder la question importante et cruciale du monde du travail en Algérie, des dynamiques sociales, des réformes de la retraite et le projet du code de travail que les syndicats autonomes considèrent comme un projet qui remet en cause les acquis des travailleurs chèrement acquis. Du dialogue entre les syndicats autonomes et le gouvernement. Pour cela, nous avons parmi nous aujourd'hui
Mehrab Tlias, bonjour, monsieur bonjour. Rabat, président du syndicat national des praticiens de la santé publique, et monsieur Amour Aboualem. Bonjour, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de la Radio Rage Vaudou Jeune, justement pour parler des mouvements sociaux ici, de l'intersyndical. Aussi, il y a, ces derniers temps, il y avait la problématique de la retraite et de la retraite anticipée que le gouvernement a décidé de supprimer. Et vous, en tant que syndicat, vous avez beaucoup contesté cette décision. Pourquoi ça?
Et on le fait toujours.
Ah oui, d'accord.
On est sur le terrain de la contestation. Déjà, enfin, tout d'abord, je salue les auditeurs de Radio Rage et j'espère que voilà, on va contribuer avec notre ami Monsieur Amoura à laisser au niveau des auditeurs un éclairage, au moins des explications par rapport à tout ce qu'on est en train de faire et les raisons de la contestation, mais pas uniquement. Donc, éventuellement, si vous permettez, je pense que ça va aller dans ce sens, développer aussi notre avis sur des questions qui relèvent du social, qui relèvent de l'exercice syndical, qui relèvent des droits sociaux d'une manière générale et qui relèvent du politique aussi, parce que nous considérons que les situations sont liées, on ne peut pas dissocier les unes des autres. Et pour revenir à votre question, je pense que par rapport à la retraite, il est déjà au niveau du principe, il faut rappeler que ce qui a été décidé, il a été décidé sans nous. Donc personne ne nous a consultés en tant que travailleurs, en tant que cadres syndicaux, en tant que militants de la cause syndicale. Et ce qui a été fait, il a été fait dans le cadre d'une tripartite qui nous a toujours exclus jusqu'à présent. Ce qui a été fait, il a été fait, comme je l'ai dit, sans concerter ou la consulter les travailleurs que nous sommes. Et donc au niveau du principe, déjà, il y a ça. Au niveau de l'approche, là, au niveau de la démarche, nous considérons que la solution qui a été proposée d'aller directement vers l'abrogation de ce droit qui est un acquis des travailleurs pratiquement depuis bientôt 30 ans, nous considérons que ce n'est pas la meilleure solution parce que tout simplement le gouvernement et les pouvoirs publics ont laissé de côté pas mal de solutions que nous pouvons reproduire à travers cette émission afin d'expliquer certains aspects. Mais nous considérons qu'il y a d'autres solutions qui ont été laissées de côté afin de ne pas y aller directement vers l'abrogation. Et nous considérons que ce qui a été fait, il a été fait sciemment parce que tout simplement, il y a une nouvelle politique qui va accompagner justement, qui est en train d'accompagner les mutations socio-économiques dans notre pays. Et je pense que la conjoncture actuelle va encore durcir en matière de restriction des libertés d'une manière générale, mais surtout au niveau du code du travail et au niveau des dispositions laissées aux travailleurs en termes de droits. Je pense que les choses vont encore se corser, vont encore se compliquer et on est que c'est un début. Donc la retraite, pour nous, c'était plus un ballon de sonde. Nous l'avons toujours dit pour le syndicat des praticiens de santé publique, des pouvoirs publics pour voir au niveau des réactions, est-ce que ça va engendrer une protestation, une réaction de la part des travailleurs des syndicats qui les représentent, mais aussi pour voir est-ce qu'on peut aller à plus que ça. À plus que ça, ça renvoie au code du travail à travers le projet qui a été pour l'instant, je dirais, mis entre parenthèses, mais c'est un projet aussi qui englobe pas mal de dispositions qui vont remettre en cause beaucoup d'acquis des travailleurs.
Merci beaucoup. Donc, le gouvernement a signé et a persisté sur le fait de dire que si on continue dans cette politique, c'est-à-dire il a justifié sa décision par le fait que la Caisse nationale de la retraite était à bord de la faillite. Est-ce que c'est un élément qui est à la base de la décision du gouvernement? Est-ce que est fiable ou comment voient les syndicats cet argumentaire du gouvernement?
D'accord, donc une autre fois, bonjour pour tous les auditeurs de la Radio Rage. Nous sommes content d'être parmi vous et d'essayer, comme a dit Dr Mrabot, d'apporter nos éclairages pour les jeunes surtout, parce que on est en train de discuter du problème du dossier de la retraite qui les concerne directement.
Justement, qui est l'avenir de...
L'avenir, c'est pas à nous qui sommes maintenant, dépassant les 50 années d'âge, c'est à eux, parce que si le gouvernement dit, comme vous dites là, il y a la crise, la caisse est vide et tout, et qui aujourd'hui, surtout parmi les universitaires, nos jeunes universitaires, qui parmi eux commencent le travail avant 30 ans, à l'âge de 30 ans, et rares ceux qui commencent. Maintenant, donc c'est un fait accompli, ils ne pourront pas sortir en retraite avant 60 ans. Oui. S'il travaille 32 ans déjà, il va partir en retraite à l'âge de 62 ans. C'est pour ça que nous disons, c'est un dossier qui les concerne. Eux aussi, ils doivent quand même riposter ou s'impliquer dans ces mouvements-là. Nous appelons à rejoindre ce mouvement et au SATEF, nous assumons ce que nous disons. Le gouvernement dit que la Caisse nationale d'assurance sociale est presque elle sera déficitaire. Nous disons que c'est faux. Pourquoi ? De prime abord, dans les pays où là, il y a de la transparence, le bilan, la Caisse nationale d'assurance, les responsables de la CNAS, ils présentent chaque année un bilan, même leurs prévisions. Nous n'avons jamais vu la CNAS présenter son bilan. Nous ne savons même pas combien d'argent il y a dans cette caisse, combien qui sortent, combien qui restent. Et du jour au lendemain, on nous dit qu'elle est déficitaire. Nous avons organisé, tout comme les autres syndicats, nos universités d'été, nous avons fait des conférences avec des experts qui nous apprennent que l'État nous doit, nous en tant que travailleurs qui cotisons à la CNAS, 68 milliards de dinars à l'État algérien. Donc, mais du jour au lendemain, on nous dit qu'elle est déficitaire. Nous ne nous carouillons pas à ces arguments-là. Il y a arrière-pensée lorsqu'ils veulent supprimer cette retraite avec sans condition d'âge et bien sûr pour.
Donc, c'est une démarche qui est un peu.
Oui. Là, c'est, vous permettez juste pour ajouter à ce que vient de dire notre ami par rapport aux jeunes. Ça, c'est pour dire que. Voilà, on est les porte-voix justement des travailleurs et enfin de nos adhérents travailleurs, mais dans les travailleurs, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Mais je pense que ça concerne les jeunes directement. Lorsqu'on parle de la caisse de retraite par rapport aux équilibres, pour comprendre, l'équilibre au niveau des caisses de retraite, c'est voilà, de maintenir justement les moyens afin d'assurer des pensions de retraite pour ceux qui sont déjà en retraite, mais ça doit se faire. En ayant les moyens de financer d'une manière régulière et permanente, justement, intergénération. Donc, c'est ceux qui travaillent aujourd'hui qui sont en train de cotiser pour ceux qui partent en retraite, parce que ceux qui sont en retraite aujourd'hui ont travaillé, et ça fait quelques années, pour ceux qui étaient déjà en retraite, et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, le problème, la problématique à notre niveau, c'est elle est au niveau du chômage, elle est au niveau du financement de ces caisses de retraite. Le financement, c'est d'une part aller ramasser l'argent dans l'informel, puisque voilà, c'est les chiffres qui sont au niveau des pouvoirs publics.
Voilà,
édifiant. Pas mal de les chiffres qui sont à notre niveau, qui ont été confortés, et je dirais confirmés par y compris des instances officielles. Je parle de l'ONS, je parle du CNES par exemple.
Même le gouvernement
reconnaît qu'il y a une évasion par rapport aux déclarations déjà, par rapport aux charges et une évasion fiscale aussi. Pas moins de 5 millions de travailleurs sont recensés dans l'informel, c'est-à-dire des travailleurs qui travaillent dans un café, sur un chantier, dans un magasin, dans une surface, dans une entreprise privée, qui des gens qui ne sont pas déclarés, mais qui travaillent régulièrement. Donc à ce niveau-là, donc il y a moyen de faire des choses pour justement ramener du financement au niveau des caisses. Et la deuxième des situations, c'est de dire que le taux de chômage, et ça c'est le rapport de 2015-2016 pour par exemple les pays du Maghreb, pour la Banque mondiale, et ça a été confirmé aussi, ça n'a pas été déjà démenti par les autorités officiellement dans notre pays, en Algérie. Le taux de chômage estimé pour les jeunes entre 15 à 60 ans, il est de 30%. Donc c'est pour dire que c'est un chiffre effarant pour une société. C'est pour une société qui a mis au minimum à 60% de jeunes. Donc je pense que lorsque le taux de chômage est réparti par rapport à la structure de la population, il est vraiment important au niveau de la structure, enfin au niveau des jeunes. 30% c'est beaucoup. Donc le problème, il n'est pas au niveau de la retraite proportionnelle et anticipée, parce que même à ce niveau-là, les chiffres qui sont à notre niveau, c'est vraiment minime en matière de retombées
sur
la caisse ou les moyens de la caisse. Mais le problème, surtout et essentiellement, il est au niveau des financements, et ça, donc c'est au niveau de l'évasion, mais surtout au niveau du chômage, et ça renvoie à la politique économique et Voilà, tout ce qui
pour est... revenir à cette décision du gouvernement, c'est-à-dire cette démarche qui n'a pas été en concertation avec les syndicats, a créé une certaine panique au niveau de, c'est-à-dire des travailleurs qui, beaucoup de travailleurs ont déposé des demandes des dossiers.
Ah, de, ben oui.
Pardon, pour les chiffres aussi, ça,
c'est important.
Ça, c'est oui. important aussi, c'est un important. Capital d'expérience, des gens qui ont assez d'expérience, qui partent comme ça en retraite, mais aussi...
Je ne sais pas, pour l'éducation nationale, je pense que notre ami est mieux placé pour voilà, avancer des chiffres. Mais je pense
c'est un autre fardeau sur la caisse qui est dans un temps assez réduit.
Pour le secteur de la santé, c'est l'estimation qui est à notre niveau en tant que syndicat des praticiens de santé publique. C'est pratiquement 25-40% de taux de déperdition donc, par rapport à tout corps confondu, hein, corps médical, paramédical, c'est même les corps communs. Donc voilà, pratiquement, on est dans les 25% comme moyenne, comme le chiffre, le pourcentage de personnes qui ont déposé leur dossier avant l'échéance du 31 décembre 2016. Donc ça, je pense que ça, déjà, ça ramène de la contradiction dans la démarche des pouvoirs publics parce que. Si on pose le problème des équilibres de la caisse, je pense que ramener 30% en plus du secteur de la santé, plus de 40% d'après les chiffres que nous avons pour l'éducation.
Pour une meilleure,
voilà, en plus de ces retombées sur.
Tout à fait. Vous avez, d'abord, on avait reproché, comme vous l'avez dit dès le départ, au gouvernement sa décision unilatérale. Le docteur l'a dit que nous n'avons pas été consultés, parce que nous aussi, si nous avons été consultés, on aurait donné des solutions meilleures.
Tout à fait.
Nous assumons ce que nous disons, meilleures que ce. Mais l'arrière-pensée, c'est une. À travers cette loi-là, c'est une compression indirecte d'effectifs. Il faut reconnaître. En 97, au moment où le baril du pétrole faisait valer dans les 8-9 dollars, on a créé moins de 10 dollars, on a créé ce départ à la retraite volontaire. À la retraite, mais la caisse déjà était déficitaire. Maintenant, quand on dit le Bahbouha, on dit aussi qu'elle est déficitaire. Mais vous avez cité ces chiffres-là. Le docteur a donné les chiffres dans le secteur de la santé. Dans l'éducation, nous disons que le chiffre est plus important. Au 31 octobre, parce que nous ont donné un délai à la rentrée scolaire pour l'éducation, le dépôt de dossier, c'était le 31 octobre. Au 31 octobre, officiellement, il y a eu plus de 41 000 de dossiers de dépôt à la retraite. Et depuis, parce qu'on a prolongé jusqu'au 31 janvier, maintenant nous estimons qu'il y a plus de 70 000 dossiers de dépôt de départ à la retraite.
C'est énorme.
C'est très énorme. Et déjà, cette année, en 2016, le ministère de l'Éducation avait organisé un concours de recrutement pour les enseignants. Et avec ça, il n'a pas pu arriver à quand même à satisfaire.
Il y a un déficit.
Au mois de novembre.
Pour ceux qui sont concernés par la retraite proportionnelle, par exemple, les pousser, je dirais, voilà, à la sortie, à la porte de sortie, alors qu'ils projetaient, pour la plupart, ils projetaient peut-être de sortir dans 3 ans, dans 5 ans pour certains. On les a tous concentrés dans un départ massif et non volontaire. En un temps record, donc pour la plupart, on a laissé pratiquement 2-3 semaines pour le dépôt des dossiers. Donc, ce qui fait qu'on a dégarni au niveau de l'encadrement dans les différents secteurs et on a produit justement des situations qui vont encore compliquer.
L'intersyndicale, voilà. Ses revendications et tout.
Voilà, pour ce qui est de
l'intersyndicale. Des dizaines de syndicats se sont.
Tout à fait, la démarche.
Regroupés autour de
la démarche, elle a été, je dirais, enfin, la réaction a été immédiate, juste après la réunion de la tripartite, la dernière tripartite du mois de juin. Du mois de juin. Donc juste après, on s'est réunis pour nous concerter. On s'est vu dans une première réunion, on était à 8 syndicats, 8 organisations syndicales de l'éducation nationale, de la santé, de l'administration et d'autres secteurs. Et on est monté jusqu'à pratiquement 17 organisations syndicales. Et jusqu'à présent, on est en train de fonctionner avec 14 syndicats organisés dans le cadre d'un plan d'action, concertation, évaluation et protestation. Donc on est sur plusieurs fronts, plusieurs registres, et la mobilisation elle se maintient et elle se renforce et elle se consolide. Et nous considérons que la réaction des pouvoirs publics dernièrement à travers l'invitation à une rencontre avec le ministère du Travail au nom du gouvernement, parce qu'il faut le dire, et suite à l'intervention du président de la République aussi.
On va revenir sur ça.
Voilà, je pense que c'est pour. C'est pour un petit peu rappeler qu'on a commencé dans la concertation et on a terminé ensemble et on l'est toujours dans un plan d'action de la protestation, malheureusement, mais aussi avec des propositions à faire par rapport aux trois points ou aux trois dossiers qui nous lient jusqu'à présent, parce qu'il n'y a pas uniquement la retraite, on est en train de parler du pouvoir d'achat aussi, donc les difficultés qu'on a en tant que citoyen, en tant que travailleur à nous maintenir avec un pouvoir d'achat qui permet une vie décente donc en tant que citoyen algérien, et aussi on est par rapport au code du travail en termes de projet. Donc on est demandeur au niveau de la concertation, mais surtout d'être impliqué officiellement et d'une manière continue justement dans l'élaboration de ce projet, parce qu'il est en relation directement avec le monde du travail, avec le monde syndical, avec le droit de grève et avec toutes les décisions qui sont décidées sur le plan économique et qui vont justement rejoindre toutes ces situations qui nous concernent directement.
Justement, je vais revenir sur les dernières activités que l'intersyndicale a menées. Elle a mené une série de grèves au mois d'octobre, d'actions au mois d'octobre, au mois de novembre, mais aussi qui étaient
des marches,
qui étaient la marche de,
d'Alger du 28 novembre,
qui a été réprimée, mais aussi celle du 28 janvier. Parlez-nous un peu de ces activités, mais aussi du bilan que vous faites après toutes ces activités. D'ailleurs, le gouvernement a imposé son plan d'action. Il a adopté la loi sur la retraite anticipée et le départ à la retraite. Donc,
oui, le gouvernement il est bien dans son rôle, et nous aussi, nous sommes, je pense, que nous sommes bien dans notre rôle, parce que nous considérons que ces trois points de la retraite et du pouvoir d'achat, ils font partie des droits de l'homme. Parce que des fois, on oublie de parler de ces droits de l'homme. Dans les années 80-90, on parlait beaucoup, mais maintenant, on dit, c'est tout le monde qui vous dit, moi j'ai envie d'un bon salaire, mais comment sans lutter. Bon, on a constaté que, de plus en plus, comme vient de citer le docteur, qu'il y a une érosion du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, ne parlons pas de chômeurs, alors que le travailleur lui-même ne peut pas se permettre, oui, de faire vivre ses enfants. Là, vous êtes fonctionnaire ou même autre dans la santé, et donc il peut pas éduquer leurs enfants, les vêtir, aller se soigner. Donc c'est pour ça que on a fait ces actions-là. Je disais qu'ils sont dans leur rôle. Nous aussi, c'est notre rôle. À travers ces activités, moi, je pense qu'on a mobilisé les travailleurs algériens. Nous avons quand même pu briser le mur de la peur, parce que les gens avaient ces dernières années peur de sortir dans la rue. Et comme je vous disais, la marche du 28 novembre à Alger qui a été réprimée, si le pouvoir n'avait pas peur des actions pacifiques, il n'aurait pas réprimé. Le docteur se retrouve au commissariat tout comme tous les autres camarades, et nous l'avons dit durant la réunion du 16 janvier au ministre du Travail, que la place des syndicalistes, ce n'est pas dans les commissariats. Nous sommes là pour quand même apporter des solutions, et nous avons des solutions alors à apporter. Il y a un bras de fer et nous pensons que nous avons eu gain de cause. Aujourd'hui, nous sommes consultés par le ministère du Travail. Le ministre lui-même a délégué l'inspecteur général du Travail pour essayer de renouer le dialogue avec lui, chose qui n'a pas pu avoir lieu depuis des décennies. Donc c'est un pas. Pour nous, c'est un pas. Nous allons continuer à la mobilisation. D'abord, rien que demain le samedi, il y aura une réunion de l'intersyndicale pour voir des suites à donner à notre mouvement. D'abord, nous allons évaluer toutes ces actions-là et bien sûr voir de la suite à donner à notre mouvement. Et c'est un mouvement qui va durer dans le temps. Dans le temps, ce n'est pas demain que nous allons nous séparer. Pour une fois, je disais, et c'est une fierté pour nous, je pense que l'intersyndicale s'est installée. Il y a un respect entre tous les membres qui composent cet intersyndicale. Et ce que nous cherchons actuellement, c'est-à-dire ce que nous voulons faire, c'est d'aller officialiser et d'aller vers une confédération des syndicats autonomes. Il faut qu'elle ait un caractère officiel quand même.
Justement, donc c'est-à-dire les syndicats autonomes, le mouvement ouvrier, il est arrivé une certaine, si on veut dire, une certaine maturité que on ne peut pas aller de le devant sans d'être se réunir dans ce pour défendre les principes fondamentaux des droits des travailleurs à la dignité, à un pouvoir d'achat digne, mais aussi à une vie décente. Donc aussi, il y a les partenaires sociaux sont beaucoup plus des acteurs qui sont là pour défendre les droits, mais aussi participer au développement, à faire face aussi aux crises éventuelles. Ouais. Donc justement, je vais poser la question dans laquelle on va revenir dans la deuxième partie. Il y avait la rencontre le 16 janvier entre le ministère du Travail et les syndicats autonomes qui a regroupé à peu près une dizaine de syndicats. Donc ça, on va revenir dans la deuxième partie sur cette question.
Ok, très bien. D'accord.
Donc on va bon. Donc la première. Donc maintenant on va le discuter de.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
De la Radio Rage Voix de Jeunes. On revient vers vous pour la deuxième partie de l'émission Café des Libertés. Je rappelle que nous avons parmi nous M. Merab Tlias, président du syndicat national des praticiens de la santé publique, et M. Amour Abouhlem, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation. Je rappelle juste que cette émission elle est consacrée à l'intersyndical et au mouvement syndical en Algérie et le contexte dans lequel évoluent ces dernières années avec la crise économique et la volonté des pouvoirs publics d'entamer des réformes économiques et sociales. Donc, je rappelle juste qu'on a, dans la première partie, qu'on a discuté du problème de la volonté du gouvernement qui a imposé par son dialogue la réforme de la retraite anticipée et de la retraite. Il y a aussi la dynamique de l'intersyndicale qui défend le droit des travailleurs et c'est-à-dire sa volonté d'aller de l'avant et aussi de construire, de bâtir un front social solide qui est capable de défendre ses droits. Donc, pour la deuxième partie, nous allons parler, justement, commencer par sur le dernier point qu'on a abordé, la rencontre du 16 janvier 2017 avec le ministère des Travailleurs, où c'est pour la première fois que des syndicats autonomes, depuis des années et des années, qui sont invités à discuter du monde du travail, mais aussi autant que partenaire, parce qu'on
nous a
à part entière dans le dialogue social, oui, aussi, pour essayer de trouver des réponses à des questions sociales et économiques. Donc, l'intersyndical a participé. Donc, on commence par M. Amoura. Donc, M. Amoura, comment voyez-vous au SATEF ou dans l'intersyndical cette rencontre?
Moi, je l'ai dit que d'abord, cette rencontre est venue après la mobilisation de l'intersyndicale. Nous avons démontré notre représentativité sur le terrain. Et de deux, au départ, l'invitation que nous avions reçue, l'objet, l'ordre du jour, était ces journées d'information sur la retraite. On s'est concerté entre nous à l'intersyndical, on s'est dit, si ils maintiennent le même ordre du jour, nous n'allons pas y participer. Parce que c'est bon, au moment où ils devaient nous consulter, ils ne l'ont
vous
pas fait,
pas voilà,
elle a été votée. On arrive, comme l'avait cité le docteur tout à l'heure, on a été pris, on a parti, ils nous expliquent non, que c'est pas ça, ils sont trompés, son administration s'est trompée, il ne va pas parler de ça. Donc, on avait participé et nous avons, bien sûr, chacun a intervenu et nous avions discuté de tous les problèmes. C'est vrai que ça fait des décennies qu'on ne s'est pas rencontrés entre nous d'Algériens. Et ce que nous avons dit pour le ministre du Travail, nous avons dit que vous voyez qu'il n'y a aucun problème que des Algériens se mettent autour d'une table, discutent entre eux, essayent bien sûr. Si aujourd'hui nous critiquons une décision ou quelque chose, cela ne veut pas dire, je pense que c'est Dr Marab qui lui avait dit que Menhbouch Bled Hadi, Goulik à chaque fois, tu n'es pas patriote. Non, bien au contraire. Nous sommes ici, nous n'avons pas fui ce pays, mais nous avons le droit de critiquer et de faire des propositions objectives. Donc, je pense que le message a été reçu, 5 sur 5. Moi, j'espère que ce n'est pas encore une autre ruse du pouvoir, parce que je le dis, au SATEF, nous assumons ce que nous disons, c'est pas parce qu'il y a la conjoncture des échéances électorales qui viennent qu'on nous ouvre les portes et après on nous ferme. Moi, nous voudrions bien croire un dialogue serein, sain, pour essayer de stabiliser notre pays une fois pour toutes. Parce que nous sommes en train de nous adresser aux jeunes. Nous ne voudrions pas que demain nos enfants qui sont jeunes vivent ou revivent les mêmes, la même chose. On voudrait bien qu'ils, quand même, qu'ils vivent dans un environnement épanoui et bien sûr qu'ils vont, ils vont s'occuper aussi d'autres problèmes autres que ces problèmes-là. C'est pour ça que nous demandons aux lycéens, aux étudiants de s'impliquer dans les mouvements qui les concernent. On a vu, par exemple, dans des pays proches, que concernant le code du travail dans un pays proche, c'était les lycéens qui sont sortis.
Les lycéens qui ont mené les premiers interdits.
Ouais. Nous ne sommes pas complexés, nous n'avons aucune honte à dire ou aucune gêne à dire, à demander aux jeunes, allez-y, vous serez demain, demain vous êtes les responsables de demain, c'est vous qui allez, bien sûr, gouverner dans ce pays.
Justement, je vais revenir toujours dans cette rencontre, dans son allocution, le ministère du Travail disait que les syndicats autonomes, les représentants des travailleurs seront consultés, soit dans toutes les démarches qui concernent les travailleurs, y compris le code de travail et le dialogue social. Est-ce que,
par rapport
à ça, est-ce qu'il y a vraiment le gouvernement a pris conscience que voilà,
on l'espère, bien qu'il n'y a pas de garantie, mais je le dis honnêtement parce qu'on est passé par ce genre de situation et on espère que c'est pas la même chose, que c'est pas un dialogue de conjoncture. La conjoncture elle n'est pas uniquement interne, nationale, par rapport aux élections qui se projettent, mais je pense qu'il y a aussi des situations régionales et international, voilà, qui
il y a un fonds social qui n'accepte pas un ouais. mouvement de c'est-à-dire le fonds social est assez fragile.
Je pense que le fonds social il est tributaire des politiques, il est tributaire des politiques dans le domaine économique essentiellement, parce que chaque quelle que soit la politique économique, elle a des répercussions sur le social, et que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Si c'est dans le mauvais sens, ça va tôt ou tard engendrer des réactions et des protestations à tous les niveaux. Donc là, je cite, lorsque j'ai parlé des conditions qui sont autour de nous, je parle de tout ce qui se fait, tout ce que subissent certains pays voisins ou là, à travers le monde, il y a une tension quand même. Et je pense que, comme beaucoup de pays, on n'est pas à l'abri. Je dirais pas qu'on est visé, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri parce que tout simplement, c'est pas parce qu'on est des Algériens. On n'est pas à l'abri parce qu'on n'est pas prémunis, parce que nous n'avons pas une économie solide, parce que voilà, nous sommes tributaires des autres dans beaucoup de domaines, et parce que tout simplement au niveau national, on n'arrive pas à construire justement ce front interne justement assez solide qui puisse justement faire face, relever les défis éventuellement et dans tous les secteurs, mais surtout faire face à toutes ces contraintes et toutes ces menaces. Je pense que consolider le front social passe essentiellement par construire avec ceux qui sont représentatifs de la société, qui portent justement les aspirations du peuple et de la société. Et je le dis honnêtement, les syndicats autonomes n'ont plus rien à prouver. Ils sont ancrés dans l'espace syndical national. Ils sont dans l'esprit du citoyen. Je pense qu'on s'installe progressivement. On est en train de s'installer dans l'esprit des pouvoirs publics. Et nous espérons que les choses ne s'arrêtent pas à ce genre de rencontre de circonstances. C'est ce que nous avons dit à la fin justement de la rencontre du 16 janvier à monsieur le ministre du Travail, puisque il a insisté pour dire que c'est au nom du gouvernement que la démarche ou que cette rencontre a eu lieu, que c'est parrainé par monsieur le président de la République. Nous l'avons dit, c'est une bonne chose, mais nous voulons qu'il y ait des démarches concrètes sur le terrain. À travers le ministre du Travail a parlé de démarches et il a même posé deux questions. Qu'est-ce que vous sous-entendez en parlant de démarches concrètes? Nous l'avons dit. Il y a une tripartite qui se projette pour le mois de mars. Et bien, nous espérons que officiellement les syndicats autonomes seront représentés dans cette tripartite. Nous considérons que nous avons une plateforme de revendication qui se déroule sur trois axes. Je l'ai dit, la retraite, le code du travail en termes de projet et des mesures à mettre en place pour protéger les pouvoirs d'achat du travailleur que nous sommes. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, le gouvernement doit s'ouvrir un peu dans un premier temps, mais surtout officiellement mettre les un espace officiellement, mettre un espace de discussion et de négociation avec les véritables représentants des travailleurs, parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas uniquement au niveau des fédérations de l'UGTA dans le secteur économique, ils sont ailleurs dans le secteur économique, mais surtout dans la fonction publique à travers ces syndicats de l'éducation nationale, de la santé, de l'administration, dans le secteur de l'agriculture à travers le syndicat des vétérinaires, dans la formation professionnelle. Je pense que dans la poste et son Elgaz à travers des syndicats autonomes jeunes voilà, qui viennent de commencer, qui sont en train de faire leur petit pas. Et je pense qu'il faudrait donner la parole à tous ces gens-là et toutes ces organisations.
Justement, comment construire ce rapport de confiance qui est, après tant d'années que des syndicats et ils reçoivent de maintes pressions, des poursuites judiciaires et des grèves qui sont déclarées illégales d'une manière
récurrente.
Un recours à la justice.
Vous avez tout à fait raison de dire ça, et c'est d'ailleurs ce que nous avons parmi les reproches qui ont été laissés au niveau de la rencontre. Lors des prises de parole qui ont été cédées aux syndicats autonomes que nous sommes, eh ben, on n'a pas raté l'occasion pour rappeler tout ça. Donc, mettre en place une relation de confiance passe justement par lever toutes les formes d'entrave à l'activité syndicale et au droit de grève. Nous avons parlé de cadres syndicaux licenciés, nous avons parlé de cadres syndicaux qui ont même des décisions de justice pour être réhabilités, justement,
et
de réintégration, ça n'a pas été fait par les employeurs, certains employeurs. Nous avons parlé des syndicats ou l'organisation qui ont des dossiers pour s'inscrire officiellement au niveau de la tutelle, et ça fait des années qu'ils sont en train de tourner en rang et pour des considérations qui ne sont pas expliquées, qui ne sont pas légitimes. Et nous avons parlé aussi de l'ingérence de l'administration. Maintes fois, justement, on a fait ce reproche à l'administration de s'ingérer dans les affaires syndicales. Donc, un petit peu assainir l'espace et consolider cette relation de confiance, je pense honnêtement que ça doit passer aussi par lever toute situation et corriger là où il faut corriger en termes de réglementation.
Moi, je voudrais dire pour dire au gouvernement que ces méthodes-là sont dépassées. Ils les ont utilisés, cela fait plus de 20 années, contre les syndicats autonomes. Au moment où l'on parle, nos camarades de SNPSP, Dr Brabant et tout, à chaque fois, ils déclarent leur grève, la justice déclare leur grève illégale. Donc là, on utilise la justice à des fins politiciennes, même pas politiques. Au moment où l'on parle, le président du syndicat de la formation professionnelle, M. Oukil, pour avoir participé ce 25 janvier dernier à une conférence de presse
de l'intersyndical.
L'intersyndical, il a été sanctionné par 3 jours d'arrêt de travail au moment où l'on discutait avec le ministre du Travail. On a été reçu qui vous dit que c'est bon, c'est une autre ère, une autre ère de relations et tout. Là, on se dit, on se pose la question. Mais quel langage parle notre gouvernement? C'est pour ça que j'ai dit, nous avons peur que ce soit une autre ruse de la part du gouvernement. Et vous savez que pour avoir une stabilité, parce que le docteur parlait des pays voisins, de la situation qui se passe et tout, nous ne sommes pas vraiment, c'est vrai, à l'abri, mais pour avoir une stabilité, la stabilité d'un pays dépend beaucoup plus d'une économie forte. Nous devons construire notre économie en dehors des hydrocarbures. Et, alhamdoulilah, l'Algérie, quand même, elle a des capacités, même des ressources humaines et même des richesses naturelles. Il faut utiliser ces richesses à bon escient et bien sûr les laisser pour les générations qui viennent.
Mais justement, il y a pour construire une bonne économie, il faut l'implication de tous les partenaires
sociaux,
tous les acteurs qui sont actifs chacun dans son secteur, ouais. mais aussi une vision globale. Est-ce que je relance la question brièvement pour passer justement aux sciences nouvelles. Cette volonté du pouvoir public de dialoguer, est-ce qu'elle ne vient pas un peu en retard par rapport justement à cette question qui a été cruciale des retraites
parmi d'autres
qui sont en suspens, parmi d'autres dossiers qui sont en suspens
Non, personnellement, moi je m'inscris par rapport aux choix qui sont offerts justement à nous et à d'autres. Est-ce que c'est venu en retard éventuellement, oui, mais est-ce que pour autant on va laisser de côté cette opportunité justement d'aller ensemble vers des solutions qui pourraient justement nous prémunir en tant que société de situations complexes dans lesquelles sont certains pays ou là d'autres pays. Je pense que oui, effectivement, c'est venu avec beaucoup de retard, Mais si c'est sincère et si on s'inscrit éventuellement dans une démarche qu'on veut consolider, qu'on veut pérenniser, je pense qu'il ne faudrait pas rater encore voilà, ce train. Parce que tout simplement, on a perdu beaucoup de temps, on est en train de tourner en rond. On est en train d'avancer en traçant de grands cercles. C'est pour dire que voilà, ça donne l'impression d'avancer. À chaque fois, on se rend compte, 10 ans, 15 ans après, pratiquement, on est au même point de départ, bien qu'on ne sera jamais au même point de départ.
Donc, justement, pour avancer, donc, il faut que... Parce qu'il y a un dialogue social qui se fait entre parenthèses, la tripartite entre le GTL, le gouvernement et le patronat. Ça doit être dans la logique la plus normale, c'est de la prochaine tripartite, c'est que les syndicats autonomes y participent pleinement au dialogue, au débat, y compris porter leur dossier. Comment ?
C'est ce que nous espérons. Nous pensons que ce sera le début d'une nouvelle ère de travail, comme l'a dit. Si vraiment ils nous invitent au mois de mars, nous pouvons dire que c'est le début. Mais vous savez, pour la perte de temps, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps. Nous l'avons dit pour le ministre du Travail la dernière fois. Il a quand même confirmé, il a dit que c'est vrai. Perdre du temps, c'est l'Algérie qui perd le temps. Ce sont nos enfants. Parce que j'ai dit, nous devrions passer à autre chose qu'à ces choses-là. Tourner, comme dit le docteur, nous sommes là d'affaires de grands cercles. Nous le disons chaque jour que personne ne détient le monopole de la vérité, ni le monopole de la démocratie, et encore moins
du patriotisme.
Du patriotisme, parce qu'à chaque fois, là, on nous accuse d'être la main de l'étranger, nous sommes à la solde de l'étranger. Mais écoutez.
Et ça commence par les nouveaux défis qui sont le code de travail que le gouvernement veut.
Le code de travail, ça fait plus d'une année qu'il a été fixé, plus. Là, je le dis.
Mais on parle de mise en cause de plusieurs acquis sociaux.
Et on touche à plus que ça, plus que d'acquis sociaux quand on permet aux enfants de travailler la nuit, aux mineurs. Aussi pour les femmes de travailler, de faire des permanences de nuit. Et le droit de grève, c'est tout ça, c'est plus que toucher aux acquis.
Monsieur Amora, si vous permettez, pour ce qui est du code du travail en termes de projet, il ne faut pas être dupe et se dire que voilà, c'est une situation purement locale, nationale, propre à notre pays. Donc le code du travail doit être conforme justement à des directives, voilà, des orientations qui sont au niveau international, et c'est les multinationales,
c'est un fonds social solide pour pouvoir préserver ses acquis, tout à fait.
C'est ce lobby international qui est derrière justement qui a la manne financière qui arrive à mettre de la pression et qui arrive à créer aussi une représentation, y compris au niveau de l'OIT, de l'Assemblée Générale de l'OIT, du BIT, qui arrive justement à peser au niveau des projets de textes de loi au niveau international. Donc le code du travail dans notre pays ou ailleurs doit être justement dans cette orientation, et c'est pour cela qu'il est très important qu'on soit non seulement mobilisé, qu'on soit conscient des enjeux, et qu'on soit aussi consolidé dans un...
C'est l'une des réponses que le gouvernement essaie de donner à la crise économique, c'est de revenir dans certains acquis sociaux, c'est-à-dire
Tout à fait.
Il parle de booster l'économie en revenant en arrière par rapport les contrats de travail, le travail des mineurs, comme vous dites, le droit de grève. Comment
l'expliquer? Vous savez que de par le temps, de par l'histoire, nous n'avons à rien inventé. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses que nous n'avons pas inventées dans ce monde du travail. À travers le temps, il y a eu toujours ce tiraillement entre les gouvernants et les gouvernés. Le gouvernant qui essaie à chaque fois, bien sûr, de réduire les acquis des travailleurs, mais c'est aux travailleurs d'essayer de sauvegarder. Comment ? C'est de réagir à chaque fois. J'ai dit dès le départ que le gouvernement, il est dans son rôle. À nous aussi d'être dans notre rôle, de défendre les intérêts des travailleurs.
Et les acquis des travailleurs.
C'est les acquis des travailleurs. Parce que vous discutez vous prenez les travailleurs chacun à part, il vous dit non, moi ça ne me concerne pas et tout. Mais on ne peut pas avoir quelque chose sans lutter.
Est-ce que le Front social est prêt à faire face à la volonté de réformer le...
En tout cas, nous sommes confiants. De par les actions que nous avons organisées au mois d'octobre, novembre et même en janvier, ce 28, avec le mauvais temps, le farois et tout, les gens se sont déplacés, nous sommes confiants et nous sommes satisfaits en quelque sorte, pas à 100%, donc ça n'existe pas dans le travail syndical, mais nous disons que nous sommes confiants et c'est ce qui nous encourage en tant qu'intersyndical à faire plus que ça.
Je pense que le combat syndical, c'est une lutte continue, c'est une lutte de tous les jours et dans chaque situation, il y a, voilà, il y a toujours moyen de lutter, de, voilà, d'accompagner des fois des réformes qui vont dans le sens de l'intérêt de l'entreprise ou du travailleur d'une manière indirecte. Mais je le dis honnêtement, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je pense que, je dirais que ça s'inscrit dans l'histoire de l'action syndicale dans notre pays, pluraliste bien sûr, et j'espère que il y aura des relais aussi afin de, voilà, de donner
de nouveau souffle
à cette activité syndicale qui est aujourd'hui dans notre pays. Et là, la parole, je pense qu'elle doit être laissée aux jeunes qui doivent justement se sentir concernés parce que tout simplement, tôt ou tard, ces situations dans lesquelles on est aujourd'hui, qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, vont les concerner peut-être d'une manière encore plus compliquée.
Justement, donc vous parlez de jeunes, il y a la grève des pharmaciens,
les étudiants en pharmacie, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, à travers les ondes de la Radio Rage, je salue justement le combat des étudiants aujourd'hui qui sont organisés. Je parle des étudiants en médecine dentaire et en pharmacie qui sont dans la protestation pratiquement. Ils ont entamé leur troisième mois de grève et de protestation. Et à travers vous aussi, un appel est lancé aux autorités publiques à tous les niveaux. Les responsables doivent se pencher sérieusement sur cette situation parce que c'est pas normal que, voilà, de laisser évoluer pratiquement dans l'anonymat, dans l'indifférence, une situation pareille, une situation de crise qui sont lisses et qui s'installent dans la durée. Donc nous pensons que c'est une bonne chose de voir nos jeunes étudiants penser à s'organiser. Ils ont démontré, voilà, leur niveau de maturité, le niveau de l'organisation et leur conviction de dire que c'est ensemble qu'on peut justement ramener des solutions aux problèmes qui concernent tous d'une manière individuelle. Donc nous lançons notre appel aux autorités de se pencher sérieusement sur cette situation parce que ça risque de déraper sur des situations encore plus graves, d'autant plus que il y a une menace d'une année blanche au niveau des facs de médecine dentaire et de pharmacie. Et je pense que ça va encore compliquer les choses pour l'année universitaire, la prochaine année universitaire.
Donc, aussi pour quand on parle du secteur de la santé, donc un peu de... Ouais. Vous, dans le secteur de la santé, vous avez beaucoup de défis actuellement. Bah, le statut particulier, la nouvelle loi sur la santé publique, ça traîne.
Déjà à commencer par une partie des revendications de ces étudiants en médecine dentaire et en pharmacie, parce qu'il faut le dire, il y a un volet pédagogique peut-être qui ne nous concerne pas directement, mais il y a quand même un autre côté, valoriser le diplôme, justement, le doctorat en médecine dentaire et en pharmacie. C'est un doctorat qui a été mise en place en 2011 à travers un décret signé par M. Yahya en tant que chef du gouvernement à l'époque. Et ensuite, il y a eu deux arrêtés, donc interministériels, pour le pharmacien et le dentiste, pour expliquer un petit peu ce qui va changer au niveau du cursus universitaire qui a été allongé d'une année quand même. Donc le programme aussi il a été étoffé pour installer le doctorat officiellement. Les premières promotions de docteur en médecine dentaire et en pharmacie, ou le docteur en pharmacie, ont commencé à être mises sur le marché du travail à partir de 2012. Depuis 2012 jusqu'à présent, ce que demandent ces étudiants, donc ces nouveaux fonctionnaires dans le secteur de la santé publique, c'est d'être considérés en termes de diplôme. Et ils sont porteurs d'un diplôme de doctorat en médecine dentaire. Alors que sur la grille des salaires des fonctionnaires, ce doctorat n'est pas positionné sur la grille des salaires. Et ça, c'est pas normal du tout. À un autre niveau aussi, ceux qui exercent avec l'ancien diplôme de pharmacien et de chirurgien dentiste, à travers le décret, ils ont le droit. Il y a un article sur le décret, l'article 16 bis et 18 bis, qui donne ce droit aux pharmaciens et aux chirurgiens dentistes avec l'ancien diplôme, bien sûr à travers une formation complémentaire, de balancer sur le nouveau diplôme de doctorat. Malheureusement, c'est tributaire d'un arrêté interministériel entre la fonction publique, le ministère de la Santé et l'enseignement supérieur, depuis 2011, date à laquelle le décret a été publié, jusqu'à aujourd'hui, cet AIM n'est pas mis en place. Donc c'est pour dire que les situations qui ont poussé ces étudiants à protester, et les praticiens aussi, parce que même pour le praticien de santé publique, c'est une revendication qui est sur la plateforme depuis 2012, malheureusement, qui n'est pas encore prise en charge.
Mais je sais un mot sur justement la loi sur la santé publique.
Le projet a été retiré, c'est une bonne chose, je le dis. C'est une bonne chose, pourquoi? Parce que tout simplement...
Parce que ce n'est pas le moment pour que le gouvernement fasse de bonne foi de vos associés dans ce projet.
Eh bien, on l'espère. Alors, on l'espère. On a toujours dénoncé le fait que le ministre de la Santé, M. Boudiaf, a préféré la situation du fait accompli et a mis tout le monde devant cette situation. Et on s'est retrouvé avec un projet au niveau de l'APN, alors qu'il devait au moins revenir au niveau de la lecture vers les partenaires sociaux. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Nous l'avons toujours dénoncé. passé, nous avons demandé au moins qu'il y ait un report jusqu'à la prochaine législative, et c'est tant mieux. Donc, mais d'ici là, on espère.
Qu'est-ce que vous demandez au juste dans cette nouvelle loi?
Déjà être associé pour laisser nos réserves et notre contribution, mais d'une manière générale, nous dénonçons le fait que l'orientation qui est laissée au niveau du projet de loi, c'est une orientation remise en cause, le secteur public. Ça ouvre les voies justement à toutes les aventures, notamment en privatisant le secteur public justement à travers ses structures et à travers son personnel. Et donc ça va remettre en cause l'accès aux soins pour tous les Algériens, qui est déjà difficile aujourd'hui et compliqué. Alors que dire si demain c'est au privé de décider par rapport à ça?
C'est d'ailleurs de construire un secteur public fort. Mais dans un environnement pluriel, où
tous
les acteurs peuvent contribuer à l'effort.
Tout à fait.
Monsieur Amora, vous aussi, à l'éducation, vous avez les mêmes défis, y compris avec une longue série de grèves qui, pour défendre les droits des travailleurs de l'éducation sur plusieurs aspects. Vous aussi, vous avez un statut particulier qui est le statut de l'enseignant qui n'arrive pas à voir le jour, mais plusieurs choses, rapidement pour compter.
D'accord, ok. Moi, je voudrais demander au gouvernement d'abord de cesser, parce que vous avez cité les étudiants en pharmacie, en chirurgie dentaire, de cesser avec la politique de l'usure. Ces étudiants sont nos enfants, ils seront les praticiens de demain, ils vont soigner quand même les Algériens. Donc, arrêtez cette politique de l'usure, comme ils font avec les syndicats autonomes, mais il faut qu'ils se mettent à table avec eux et de chercher des solutions. Parce que la signification du mot responsable, ils sont bien payés, ça vient de l'anglais responsible. Donc c'est être capable d'apporter une réponse. Je pense que pour le moment, des attentes des gouvernés, des travailleurs, des étudiants et tout. En ce qui concerne les défis de l'éducation, c'est vrai que vous avez cité le statut particulier que nous avons ouvert pour la troisième fois, en 2015. Donc la première fois, 2008, donc 2011 et 2012. Là, les partenaires sociaux, les syndicats ont une part de responsabilité dans, je dirais que...
Il y a des approches différentes dans ces...
Différentes, tout à fait. Il y a des imperfections. Et puis nous l'avons rouvert en avril-mai 2015. Et malheureusement, ça traîne encore. C'est la politique de l'usure. Ça traîne encore. Et nous avons repris, donc les travaux ont été arrêtés au mois de mai de 2016. Nous n'avons repris que ça fait un mois que nous avons repris, et je sais qu'il va encore tarder parce que on cherche des problèmes aux solutions et pas des solutions aux problèmes. C'est valable. Vous savez que dans tous les pays du monde, vous avez un statut. Si vous allez vers quelque chose, on construit sur quelque chose, sur le bac. Parce que pour nous, dans l'éducation, ce qui est important, c'est le baccalauréat. Votre fils ou votre fille réussit au baccalauréat, vous faites une fête. Mais elle a son diplôme même de chirurgien ou de chirurgienne, là c'est normal. Donc qu'est-ce que nous disons? Nous devons bâtir sur le bac, bac plus et bac moins. Malheureusement, en ce moment même, nous sommes en train de refaire la même erreur. Donc les défis, il y a le défi de la refonte du système éducatif en entier. Aujourd'hui, l'Algérie, le système éducatif algérien, il est très mal classé. Il n'est même pas classé. Même l'université algérienne, elle n'est pas placée et nous ne sommes pas contents. Nous sommes les fils de cette Algérie. Nous sommes les plus produits de l'école algérienne et de l'université algérienne. À un certain moment, il y avait quand même un niveau. Nous constatons que nous régressons. Ça ne nous fait pas plaisir.
Beaucoup de réformes ont été élaborées, ont été faites.
Elles ont été lancées, mais nous disons que c'était beaucoup plus des réformes politiques. Et ce que nous demandons en tant que SATEF, c'est de soustraire l'école algérienne de la politique,
de la lutte idéologique
et politique. Laissons l'école algérienne tranquillement. Et nous voyons que la Corée du Sud, qui est en 1948 encore, était sous le joug de la dictature. Dictature, aujourd'hui, c'est le meilleur système, si j'ose dire, parmi les meilleurs systèmes éducatifs. Je ne parle pas de la Finlande. Donc, les défis qui nous attendent, c'est tout cela. Nous constatons aussi que les langues étrangères n'ont pas leur place dans l'école algérienne. Malheureusement, on ne peut pas acquérir la technologie sans les langues étrangères.
On ne peut pas avancer sans s'ouvrir aux langues.
Oui, mais il ne faut pas être complexe, nous n'avons aucun complexe. Au contraire, comme, par exemple, pour le français, comme disait Kate Biesi, c'est un butin de guerre. Nous sommes là, nous parlons français, anglais, arabe, c'est pas pour autant. Si je parle le français, que je suis français, c'est faux. C'est faux. Voilà. Ce sont beaucoup, il y a beaucoup de défis, mais déjà, si on fait une refonte du système éducatif, ce sera quelque chose d'extraordinaire.
C'est un début d'un État.
C'est extraordinaire. Oui. C'est un début d'un État démocratique.
Ah oui.
Oui.
Nous arrivons à un terme, donc, après tout ce débat, qu'est-ce qui... Pour résumer tout ça, on arrive à
la perspective,
justement. Donc, quelques mots, M. Marabat. Qu'est-ce qui vous attend en tant qu'intersyndical, mais aussi qu'est-ce qui vous attend en tant qu'un syndicat d'un secteur de la santé publique?
Enfin, pour l'intersyndical, je dirais tout simplement, le syndicat des praticiens de santé publique l'a toujours dit, et mon ami, hélas, peut-être pour le confirmer. Cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pour nous, c'est une situation d'étape. L'essentiel, c'est d'aller plus loin et mettre en place éventuellement une union syndicale autonome, une confédération, une fédération. Enfin, c'est à nous ensemble de trouver les termes qu'il faut, mais consolider officiellement un espace syndical pluriel au nom des syndicats autonomes. Et j'espère qu'on va le faire ensemble et pas uniquement avec Dr Marabat, peut-être que voilà avec un autre responsable pour le syndicat des praticiens. Donc c'est pas lié aux personnes. Pour ce qui est des perspectives en termes de santé ou là dans le secteur de la santé, je pense que les réformes au niveau du secteur de la santé sont importantes, mais les réformes du système de santé, c'est pas uniquement la loi sur la santé, c'est aussi les lois sur la sécurité sociale qui n'ont pas été revues depuis 1983, parce que tous les responsables, lorsqu'ils parlent de la refonte du système, ils mettent en exergue la loi sur la santé, parce qu'ils disent qu'elle date de 1985, alors que les lois sur la sécurité sociale, qui sont pratiquement tributaires justement du bon fonctionnement de tout système de santé, remontent à 1983 et personne n'en parle. La réforme du système de santé, c'est aussi une réforme pédagogique au niveau de la formation initiale et continue aussi des professionnels de la santé. L'adapter à la situation démographique, l'adapter à la situation socio-économique et politique, et l'adapter aussi à la situation épidémiologique, parce que tout simplement, les défis sanitaires qui sont les nôtres d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui étaient là dans les années 60 et 70. Donc la réforme du système de santé, c'est tout cela, et nous considérons qu'il y a un chantier justement dans lequel on doit être associé et à part entière et d'une manière permanente.
Merci beaucoup. Donc justement, je reprends le dernier mot, un chantier, un grand chantier. Donc vous, à l'éducation, beaucoup de choses se font avec la nouvelle ministre, mais aussi beaucoup au niveau de la base, avec la diversité syndicale. Quels sont vos défis en tant qu'acteur pour avoir une école algérienne
de qualité.
De qualité, justement.
Sincèrement, ce que vous dites, d'abord, je tiendrai à rendre hommage au docteur Marabat, au rôle qui... Bien sûr, dans l'intersyndicat, je le dis honnêtement, sans aucun calcul, parce qu'ils ont toujours été présents. Bien sûr, vous savez bien que la majorité des syndicats qui composent l'intersyndicat sont de l'éducation, mais eux, quand même, ils n'ont épargné aucun effort, sincèrement, pour la réussite des travaux.
D'ailleurs,
à chaque fois.
Deux secteurs qui sont très dynamiques.
Santé, mais de la santé aussi. Moi, je rends hommage au SNPSP, donc le représentant de M. Marabat. Ils ont tenu, et ils sont là, et ils nous ont toujours accompagnés. Donc voilà, c'est déjà quelque chose de positif. Et nous aussi, on espère aller vers, nous disons, la création d'une confédération des syndicats autonomes. C'est notre but à long terme, mais à moyen terme, même à moyen terme. En ce qui concerne les chantiers de l'école, moi je le dis honnêtement, il faut une refonte, pas ce qu'on fait là du bricolage, des réformettes, ce qu'on a fait de circonstances. On doit aller vers la refonte du système éducatif. On ne peut pas parler, actuellement, on parle d'une réorganisation par exemple du baccalauréat, de l'examen du... On ne peut pas parler de réorganisation du baccalauréat sans toucher à la réforme de l'enseignement secondaire. Il faut qu'il aille en parallèle. Voilà, entre autres, que je parle de réforme. Sinon, les chantiers, l'éducation déjà en lui-même, c'est un grand chantier parce que c'est plus de 800 000 travailleurs quand même, l'effectif de 800 000 travailleurs.
Voilà, je pense qu'il faut préserver l'école des politiques et voilà, il faut déjà tout simplement.
Merci beaucoup, M. Marabat, président du syndicat national des praticiens.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci à vous et à vos auditeurs.
Notre invitation, merci beaucoup. M. Amoura Boualem, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation. On vous remercie beaucoup aussi d'avoir accepté notre invitation. Nos chers auditeurs et auditrices, on vous remercie beaucoup. On vous donne un nouveau rendez-vous pour une autre émission. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.